Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Déborah Dagobert.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est au chevet de l'économie allemande que nous nous rendons cette semaine. L'Allemagne, moteur de l'Europe, flirte depuis plus d'un an avec la récession et suscite de plus en plus d'inquiétudes. Les tensions commerciales, les craintes liées au Brexit et le ralentissement chinois pourraient bien mettre fin à 8 ans d'expansion économique outre-Rhin. La fin d'un cycle qui devrait obliger l'économie allemande à se réinventer. Demain, nous remettrons en question le dogme de l'orthodoxie budgétaire. Puis nous nous pencherons sur la montée des inégalités en Allemagne avant de nous demander si le pays d'Angela Merkel est en train de perdre son pari énergétique. Mais d'abord, examinons le modèle de croissance allemand et ses premiers signes d'essoufflement. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'Allemagne doit-elle repenser son modèle économique ? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Guillaume Duval, éditorialiste au magazine Alternatives économiques et auteur de Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes, paru au Seuil en 2013. Avec nous également en duplex de Nice, Patricia Comin, professeure de civilisation allemande, directrice du Master de langue et commerce international à l'Université Cergy-Pontoise et auteur d'un dossier sur le système export pour la revue Allemagne d'aujourd'hui, à paraître en mars 2020. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
Nous avons aujourd'hui, mesdames et messieurs, pas seulement le taux de chômage le plus bas depuis la réunification, le taux de chômage chez les jeunes le plus bas de toute l'Europe, nous avons stoppé le processus de fuite des emplois dans l'industrie et dans certains domaines, nous l'avons inversé. Nous avons aujourd'hui entre 20 et 22% des emplois de l'industrie. Et ils sont finis, les temps où ces emplois étaient discriminés, comme plus sales, comme des jobs alimentaires, ces services appartiennent désormais au futur. Je me bats aussi pour les emplois tertiaires. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui nous connaissons la prospérité, c'est que nous avons le plus grand nombre d'emplois dans l'industrie, dans toute l'Europe. Dans l'industrie automobile, dans la technique médicale, dans l'industrie optique, dans la construction de machines et dans beaucoup d'autres domaines. Et laissez-moi vous dire, tant que nous investirons nos forces dans ces domaines, nous n'aurons pas à penser à l'Allemagne avec angoisse. Et c'est pourquoi nous devrons encore nous battre pour nos emplois dans l'industrie dans le futur.
Bonjour Guillaume Duval et Patricia Comin.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient d'entendre le ministre allemand de l'économie et de l'énergie, Peter Altmaier. C'était le 25 août dernier lors de la journée de l'industrie. Une première réaction à ces propos, Guillaume Duval. Malgré le risque de récession en Allemagne, pas question pour le gouvernement de montrer des signes d'inquiétude ?
Oui, il en montre quelques-uns d'ailleurs, mais Peter Altmaier lui-même, puisqu'il s'est converti à la politique industrielle. Donc pendant très longtemps, l'Allemagne a été très défavorable à toute idée de politique industrielle, qu'il fallait que l'État soutienne des secteurs d'activité, la recherche, etc. Là, ils se sont rendus compte que quand même, par rapport à tout ce qui se passe, on va y revenir, je pense, de manière plus détaillée, mais tout ce qui se passe dans l'industrie automobile en particulier, qui est aujourd'hui le pilier, le cœur de la puissance industrielle allemande, les menaces sont très très lourdes, ils sont assez mal préparés pour l'avenir et donc il faut faire quelque chose et faire quelque chose en termes de politique publique en particulier.
Des menaces très lourdes. En effet, l'Allemagne est menacée par une récession technique, c'est-à-dire qu'il y aurait un deuxième trimestre consécutif de récession. Patricia Comin, une première réaction à vous aussi à ces propos de Peter Altmaier ?
Moi, tout d'abord, je partage son optimisme parce que pour un homme malade, comme on m'avait coutume de le dire dans le passé, l'Allemagne se porte plutôt bien. Elle remplit actuellement entièrement, quasiment les critères de Maastricht avec 60,9% d'endettement sur 2018, alors qu'en France, on est à 98,4% d'endettement par rapport au PIB. On a des excédents budgétaires depuis les années 2000. Un taux de chômage est plus faible d'Europe. un excédent budgétaire de 49 milliards qui vient d'être annoncé seulement sur la première moitié de 2009.
Bon, la situation n'est pas si inquiétante que ça pour
oui,
vous.
Oui, des assurances santé en excédent, etc. Bon, un taux de prélèvement obligatoire tout de même de 40% en Allemagne. Donc les entreprises sont en mesure de contribuer ou de payer leur éco à la progression du PIB de manière spectaculaire. Et puis il faut pas oublier que c'est d'industrie manufacturière, produit pour 2 000 milliards pardon par an et sur ces 2 000 milliards, elle en produit à peu près la moitié à l'étranger. Donc la moitié du PIB allemand est produit à l'étranger. Et au cœur de cette production du PIB, c'est de la moitié du PIB, c'est l'internationalisation.
Alors justement, l'Allemagne a fondé son modèle de croissance sur les exportations, et on a le sentiment que c'est ce modèle qui est aujourd'hui remis en cause. La question qu'on se pose, Guillaume Duval, c'est est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un retournement conjoncturel ou à l'épuisement d'un modèle de croissance?
Oui, j'ai plutôt tendance à opter pour le deuxième terme de l'alternative. Je sais que beaucoup d'Allemands pensent encore que c'est sans doute un problème purement conjoncturel qui n'appelle pas de soucis particuliers. Ils pensent ça notamment parce que ça s'est bien passé pour eux en 2008-2009. Hein. Ils avaient eu une récession deux fois plus importante que nous cette année-là, en 2009. Mais tout de suite après, l'économie allemande et l'industrie allemande en particulier, était reparti très vite, très facilement, en profitant notamment du plan de relance massif qu'il y avait eu à la fois aux États-Unis et en Chine à ce moment-là. Donc l'industrie allemande était repartie très vite. Donc je pense que beaucoup d'Allemands pensent encore aujourd'hui que ça va se passer comme ça cette fois-ci, mais là, je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent à venir comme demande extérieure à ce qui s'était passé en 2009-2010 pour l'Allemagne. Donc je crois que c'est effectivement structurel, c'est en particulier structurel parce que ça touche en premier chef l'industrie automobile avec des ruptures majeures à la fois du côté des motorisations, donc les motorisations électriques, alors voitures autonomes, etc.
Mais on va revenir effectivement sur cette dimension. D'abord peut-être un mot sur l'aspect conjoncturel. C'est tout de même en grande partie le ralentissement de la croissance chinoise et les tensions commerciales, Patricia Comin, qui explique aujourd'hui ce risque de récession en Allemagne et ce ralentissement allemand.
Je partage l'inquiétude de mon collègue Guillaume Duval, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que les points de rupture et les chocs sont davantage nationaux et européens qu'internationaux. Et je vous donnerai des éléments pour prouver ma thèse plus tard. L'industrie automobile connaît un choc énorme dû à la nécessité de répondre aux normes de CO2, etc., donc de passer à l'électrique. Et cela suppose évidemment licenciements massifs, puisque pour fabriquer une voiture électrique, on a besoin d'environ 70% de moins d'ouvriers, à peu près. Ce sont des chiffres énormes, donc ce sont plutôt ces chocs voulu par les milieux écologiques qui mettent en question la survie même de l'industrie automobile, non seulement allemande, mais européenne et française, moins la production en Europe.
Il y a la question des normes, effectivement, Guillaume Duval, qui pose question aujourd'hui dans le secteur automobile, et aussi l'impact du Dieselgate, qui aujourd'hui encore a un impact économique, vous diriez, Guillaume Duval?
Oui, le Dieselgate a un impact économique à la fois parce qu'il a un coût direct qui est malgré tout non négligeable en termes d'amende, etc., mais surtout parce qu'il a un coût très important en termes d'image et de perte d'image de l'industrie automobile allemande.
Il faut rappeler que l'affaire a éclaté en 2015. L'agence environnementale américaine accuse à ce moment-là Volkswagen d'avoir enfreint des réglementations anti-pollution à l'aide d'un logiciel truqueur qui aurait été installé sur des centaines de milliers de véhicules diesel.
Oui, c'est d'ailleurs une histoire tout à fait intéressante parce qu'elle est assez typique de l'industrie allemande. C'est-à-dire que, en général, quand ce genre de scandale éclate, c'est que quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise a vendu la mèche parce qu'il était licencié, il s'est fâché, etc., etc. Là, tout le monde chez Volkswagen avait tenu sa bouche, il n'avait jamais parlé. Donc c'est vraiment les Américains et un cabinet extérieur à l'industrie qui a découvert le poteau rose. Donc c'est vraiment un cas de figure très exceptionnel en termes de scandale de ce type. Et c'est assez caractéristique, donc effectivement, de ce qui fait la solidité, mais aussi la faiblesse dans le cas précis de l'industrie allemande, c'est-à-dire une capacité de cohésion, de coopération des salariés en interne très 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 forte. Mais oui, ça représente aujourd'hui un danger majeur. Ça a été dit parce que construire une voiture électrique, ça nécessite beaucoup moins de travail qu'une voiture thermique, en tout cas chez les constructeurs eux-mêmes. Donc là, ça va soumettre l'ensemble du secteur à des grosses mutations, mais les Allemands en particulier, parce qu'ils produisent et ils vendent des grosses voitures. Hein. Donc si l'industrie allemande a plus de succès que l'industrie française, c'est pas du tout... c'est pas seulement parce qu'ils vendent plus de voitures, c'est parce qu'ils vendent des voitures plus grosses et plus chères. Hein, donc c'est ça qui permet à l'industrie allemande jusque-là de s'en sortir. Mais des voitures plus grosses et plus chères, c'est forcément aussi des voitures qui, tant qu'elles sont thermiques en tout cas, émettent plus de gaz à effet de serre, donc qui sont plus embêtées que les autres par les normes assez strictes, c'est vrai, qui ont été mises en place à Bruxelles. Heureusement pour nous, heureusement pour l'avenir de la planète.
En l'occurrence, effectivement, il y a un certain retard qui aurait été accumulé par l'industrie allemande vis-à-vis de l'électrique, d'autant plus que la concurrence chinoise et américaine est particulièrement forte dans ce domaine, Patricia Commin.
Oui, la concurrence est forte, c'est certain, mais les Allemands viennent de sortir une première Volkswagen électrique au salon de Francfort, seulement pour la modique somme de 30 000 à 40 000 euros. Et c'est bien ça le prix. Je suis complètement d'accord avec Guillaume Duval qui souligne les problématiques de prix. Grosse voiture contre petite voiture. Pour le coup, dans le domaine de l'électrique, les Français vont tirer leur épingle du jeu peut-être mieux que les Allemands à terme, puisqu'ils produisent, Renault vient de produire en Chine une voiture électrique qui coûte 8000 euros. Alors, est-ce qu'ils vont la réimporter en Europe? C'est une question à poser à l'entreprise.
Mais, et pour ce qui est des normes, le nouveau protocole d'homologation des véhicules a déjà entraîné de sérieux retards. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut souligner, Patricia Commin.
Il y a des retards, certainement, mais ils sont rattrapés à une vitesse spectaculaire. Et par ailleurs, l'erreur qu'a fait Volkswagen, c'est d'avoir voulu jouer la quadrature du cercle, c'est-à-dire sauvegarder la performance des véhicules diesel tout en respectant les normes américaines environnementales qui sont encore beaucoup plus sévères que les normes européennes. Et là, ils se sont fait prendre, bien sûr. C'était mission impossible. Donc, les Allemands aiment parfois les missions impossibles, effectivement. Maintenant, le retard, ils sont en train de le combler, je pense, assez rapidement. Et la production se lance. Le problème, c'est la tarification.
Ralentissement de la production a tout même déjà fait quelques victimes. Guillaume Duval, je pense en particulier à Eisenmann, cette entreprise familiale spécialisée dans la peinture pour automobile. On voit déjà que ce ralentissement a un impact réel.
Oui, ce ralentissement, d'abord, il est massif. Hein. Donc en Chine, on est sur une pente de moins 15% des ventes de voitures. Hein. Donc, il y avait eu une croissance très très forte. Mais
Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, il faut le rappeler.
Le premier partenaire commercial de l'Allemagne, et en particulier dans le secteur de l'automobile. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas que les voitures elles-mêmes. Ce qui fait la force de l'industrie allemande et de l'industrie automobile allemande en particulier, c'est aussi la maîtrise des machines, des équipements qui vont avec cette industrie. Si l'industrie allemande a résisté et pas l'industrie française, c'est notamment parce que c'est une industrie qui produit les machines qui vont dans l'automobile, dans la chimie, etc., etc., alors qu'il n'y a plus de biens d'équipement en France. Donc ce qui se passe, c'est que, à la fois dans l'automobile, mais plus largement, il y a aussi un très fort ralentissement des biens d'équipement, de l'industrie des biens d'équipement, et en particulier parce que la Chine se met elle-même à produire des biens d'équipement à concurrencer les constructeurs occidentaux et en particulier les Allemands sur les machines que jusque-là les Allemands leur vendaient. L'Allemagne s'en est bien tirée depuis 10 ans, beaucoup parce qu'elle a beaucoup profité de l'industrialisation des pays du Sud, des pays émergents, et en particulier l'industrialisation de la Chine. Ça, il y a tout lieu de penser que c'est une période qui est terminée, à la fois parce que la dynamique ne peut pas être aussi forte en termes d'industrialisation de ces pays pour le futur, mais aussi parce que de nouveaux concurrents apparaissent sur ces marchés.
Vous êtes d'accord avec cela, Patricia Commin? On entre dans une nouvelle ère dans laquelle la croissance chinoise ne tirera peut-être plus le commerce mondial et en particulier l'industrie allemande?
Ça, je n'irai pas aussi loin. Je suis d'accord avec le constat qui vient d'être fait, au sens que maintenant, on entre dans une nouvelle phase qui est celle d'une concurrence frontale avec les pays d'Asie du Sud-Est et avec la Chine en ce qui concerne la production, par exemple, de machines-outils, qui était vraiment la chasse gardée des Allemands avec des niches très particulières, très adaptées aux besoins dans le monde entier, etc. Et là, ça, cette phase parvient à un tournant, en tout cas. On ne peut pas dire que ça s'est terminé, mais ça parvient à un tournant. Mais quant à signifier que du coup la croissance chinoise ne tirera plus la croissance allemande, ça c'est aller un peu vite en besogne, dans la mesure où les Allemands sont présents en Chine depuis très très longtemps et ils produisent directement en Chine.
Il y a 5000 entreprises allemandes qui sont présentes en Chine, en effet, c'est la plus forte présence européenne dans le pays.
Tout à fait, alors ils n'ont seulement les sites de production, mais ils ont des bureaux de représentation, ils ont tout un écosystème, il y a un village près de Shanghai qui s'appelle Taikang et qui a reproduit le système ou l'écosystème allemand sur place avec des bureaux de représentation, une coopération scientifique et technique, des ingénieurs qui sont formés en apprentissage. C'est une espèce d'Allemagne exportée, si vous voulez. Donc le système allemand s'exporte, tout l'écosystème de production, de formation, de know-how est exporté. Ils sont dans une phase où ils exportent autant de know-how que de production.
Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est.
C'est le fait d'ouvrir des centres de recherche communs entre sino-allemands. Il y a comme ça des centres de recherche ou indo-allemands. D'ailleurs, les Allemands font la même chose en Inde. Ils ouvrent des centres de recherche dans lesquels ils forment des ingénieurs en Inde, des ingénieurs automobiles. Par ailleurs, ils ont une compétition, ils sont en compétition avec les Chinois, mais ils ont vraiment une coopération scientifique très étroite avec les ingénieurs chinois sur place en Chine, mais aussi à Berlin. Vous avez un centre de recherche sino-allemand à Berlin, donc on ne craint pas en Allemagne, on ne voit pas, la Chine uniquement comme un concurrent, mais aussi comme
coopération. Quand les Allemands ont vu arriver les TGV chinois sur tous les marchés du monde, ils ont été un petit peu inquiets. Quand ils ont vu les entreprises chinoises commencer à racheter KUKA et les entreprises de la machine-outil allemande, ils ont commencé à s'inquiéter sérieusement. C'est vrai que l'Allemagne jusque-là a été un des champions de l'ouverture des marchés européens, de la lutte contre le protectionnisme européen, justement parce qu'ils pensaient pouvoir profiter des marchés extérieurs et ils avaient peur de représailles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Allemagne a fait faire beaucoup de bêtises à l'Europe sur ce plan-là au cours de la dernière décennie en particulier. Donc l'Allemagne a obligé en particulier les pays d'Europe du Sud à vendre leurs bijoux de famille pour se désendetter. Et ces bijoux de famille, c'est des entreprises chinoises qui les ont rachetés.
Et aujourd'hui, en même temps, l'Allemagne est la première cible des représailles américaines. Donald Trump menace de droits de douane à hauteur de 25% les fleurons de l'automobile allemande. Est-ce que il y a une inquiétude importante du côté des États-Unis, Guillaume Duval?
Oui, alors simplement donc sur la Chine, je pense que l'Allemagne est aussi en train de changer d'attitude et c'est bien pour l'Europe parce que c'est une vraie menace à la fois en termes de savoir-faire et d'acquisition prédatrice pour l'industrie européenne en particulier. Mais pour ce qui concerne les États-Unis, oui, c'est l'autre menace très forte. Donc c'est la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'automobile allemande. Donc là, oui, les Allemands produisent déjà beaucoup sur place aux États-Unis, mais ce qui a fait la force de l'industrie allemande malgré tout, c'est le fait de garder beaucoup de production chez soi. Donc c'est d'être capable de... Enfin, il n'y a jamais eu de tchourouk allemand qui a dit « moi je vais faire des entreprises sans usine hein ». Donc ils ont gardé beaucoup de production chez eux, tout en exportant à partir de l'Allemagne. Et c'est vrai que s'il y a des représailles, enfin des droits de douane significatifs qui sont posés par les États-Unis en particulier, ça risque de poser problème.
Alors ça reste de l'ordre de la menace, puisqu'à l'heure actuelle, les exportations vers les États-Unis continuent d'augmenter, les exportations allemandes.
Oui, mais enfin, on sait avec Donald Trump que les menaces peuvent être suivies des faits. Donc, il est très occupé pour l'instant avec sa guerre commerciale avec la Chine. S'il réussit à trouver un accord avec eux, il va s'occuper sans doute des Européens et des Allemands en particulier juste derrière.
Patricia Comin.
Alors, moi, je voudrais insister quand même sur un point, c'est que actuellement, ce qui touche déjà les fabricants automobiles allemandes, c'est curieusement la guerre commerciale sino-américaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Allemands ne produisent pas les automobiles destinées au marché chinois dans leurs usines allemandes, mais dans les usines américaines. Et donc, le marché de l'export automobile allemand vers la Chine est en train de s'effondrer littéralement. C'était un marché en forte expansion, avec 268 000 véhicules importés des US en 2017. Et c'est ce marché-là qui est en cause qui va être embêté par la guerre commerciale sino-américaine. Et de manière très intéressante d'ailleurs, les Chinois, et ça a fait le sujet d'intervention des officiels chinois, en Chine, si vous voulez, ce qui est gênant, c'est que les douanes américaines sur l'acier touchent principalement les entreprises étrangères présentes en Chine pour 59%. Donc par un jeu de retour assez curieux, ce sont à la fois les entreprises allemandes implantées aux US mais exportant en Chine et les firmes américaines implantées en Chine qui souffrent de la guerre commerciale sino-américaine. Déjà, il y a des dégâts collatéraux, pour l'Allemagne qui sont potentiellement très très importants. Donc les choses sont très complexes.
Et ce qui inquiète peut-être le plus l'Allemagne aujourd'hui, c'est la perspective d'un Brexit sans accord. Je vous propose d'écouter Nicolas Peter, qui est l'un des membres du conseil d'administration de BMW. C'était lors de l'ouverture du salon de l'automobile la semaine dernière.
Bien sûr, ça aura un impact sur nos entreprises. Et cet impact peut s'expliquer d'une façon très simple. L'absence d'accord signifierait très probablement que les tarifs de l'OMC seront imposés à partir du 1er octobre. Et ça voudrait dire que nous serons obligés de monter les prix de nos produits fabriqués en Angleterre à destination d'autres marchés. Une montée des prix implique un impact sur les volumes que l'on vend et conduirait éventuellement à une réduction de la production de voitures à Oxford, dans nos filiales britanniques. C'est le scénario, et c'est pourquoi nous exhortons vraiment le gouvernement à éviter la solution d'un Brexit sans accord.
Voilà, une situation d'autant plus inquiétante que le Royaume-Uni est le pays avec lequel Berlin réalise le plus d'excédents commerciaux. Patricia Comin, l'industrie automobile serait particulièrement touchée par un Brexit sans accord ?
Oui, tout à fait. Le Royaume-Uni est tout de même le quatrième partenaire, le quatrième client de l'Allemagne, actuellement encore. Mais de manière intéressante, les Allemands, comme souvent, préemptent les évolutions et les dangers. Ils ont, en fait, rapatrié la production, par exemple, de Bentley, de Phaeton, bon, qui sont des voitures anglaises, en Allemagne. Actuellement, la Phaeton et la Bentley sont produites à Dresde, dans ce qu'on appelle la Gläserne Manufaktur, une usine ultra-moderne qui occupe la bagatelle de 300 seulement employés. Imaginez. Donc ils revendront, et si la production est faite en zone euro, ils vont peut-être échapper au risque qui était précité. Par ailleurs, les Allemands ont tout de même profité en produisant en Angleterre de la baisse de la livre sterling. Bon, l'instant n'est pas sorti du Brexit, mais il y a une baisse spectaculaire de la livre. Donc ils ont profité de cet effet monétaire d'aubaine.
Donc une inquiétude, Guillaume Duval, qu'il faut peut-être nuancer avec le fait que l'industrie allemande a anticipé cette possible sortie sans accord.
Oh, je pense que les industriels allemands sont très inquiets et à juste titre. Hein. C'est-à-dire que dans un contexte où l'économie allemande est déjà dans la récession, en particulier parce que l'industrie, la production industrielle recule fortement, avoir des ennuis, des incertitudes de cet ordre avec un de ses principaux clients et un de ses principaux excédents, hein, l'excédent commercial sur le Royaume-Uni, c'est 1,5% du PIB allemand, hein, donc c'est non négligeable. Oui. Donc d'avoir des incertitudes de cet ordre-là avec un client comme celui-là, c'est un très gros problème et un très gros souci. Je pense que Madame Merkel, derrière, dans les couloirs, doit faire une très grosse pression pour qu'on trouve un accord avec le Royaume-Uni pour sortir de manière, pour qu'il sorte de l'Union de manière ordonnée, parce que les enjeux pour l'économie allemande et donc aussi pour l'économie européenne sont non négligeables dans le contexte actuel.
On a parlé des difficultés que traverse l'industrie automobile. Patricia Comin, ce que l'on note, c'est que ces difficultés se répercutent dans toute l'économie allemande. Elles ne sont pas cantonnées à ce secteur industriel automobile.
Certainement, puisque en amont, vous avez évidemment les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Il y a énormément, une grosse majorité d'entreprises donc qui travaillent pour cette industrie automobile. C'est certain. Ceci étant, l'industrie manufacturière qui représente encore maintenant, donc ça c'est les chiffres de 2018, 27,6% du PIB contre 10% pour la France, tout de même se porte encore relativement bien. On ne voit pas encore sur les chiffres ces risques, ces menaces qui se profilent à l'horizon. Le chiffre d'affaires, encore une fois, le chiffre d'affaires global réalisé par les entreprises d'industrie manufacturière en 2018, c'est plus de 2000 milliards d'euros. C'est considérable. Pour donner une idée de comparaison, la France, c'est 870 milliards. Donc, bon, on peut avoir des difficultés, mais quand on parle de plus de 2000 milliards, voilà, ce sont des difficultés qu'on peut relativiser.
Et en même temps, il faut souligner que la filière chimique est aussi largement touchée en Allemagne, Guillaume Duval. Ça, c'est une source d'inquiétude importante.
Oui, mais donc la chimie allemande, donc là, c'est en particulier l'affaire de Bayer qui a racheté Monsanto. Donc la chimie allemande était en difficulté, en recul depuis longtemps déjà. Donc pour sortir de ce piège, Bayer, donc un des grands chimistes allemands, a en particulier racheté un monstre américain, Monsanto, mais il a racheté en même temps toutes les difficultés que traîne cette entreprise en termes à la fois d'image et sur le plan judiciaire. Donc ça peut et ça risque d'avoir des conséquences très lourdes sur le plan industriel, sur cette branche qui était déjà en recul. Hein. Donc ce qui se passe en Allemagne depuis 20 ans, c'est quand même une concentration de plus en plus grande de la force industrielle de l'Allemagne sur le domaine de l'automobile par rapport à une industrie qui était plus diversifiée dans le temps.
Parmi les grands groupes chimiques, vous avez cité à Bayer, il y a aussi BASF, Merck ou encore Linde, donc de très grands groupes chimiques, Patricia Comin, mais qui font face à des difficultés importantes. Et parmi ces difficultés, on peut noter la sécheresse qui avait fortement limité la navigation sur le Rhin à l'automne 2018. Ça a encore accéléré et aggravé les difficultés de cette industrie.
Alors, je ne partage pas encore l'idée d'enterrer un petit peu rapidement la chimie allemande. Parce que pourquoi, bien sûr, Bayer a acheté Monsanto et fait face à une crise importante de réputation, ce qu'on appelle ça, le management réputationnel, ça c'est toute une branche qui est très bien développée, que les Allemands connaissent très bien. Et en rachetant Monsanto, ils étaient bien conscients de ce problème de réputation. Ce qu'on fait à ce moment-là, les Allemands, les chimistes, c'est qu'ils ont supprimé le nom de Monsanto et ils font une publicité énorme sur la nouvelle branche dans laquelle ils veulent se développer, c'est-à-dire l'agrochimie et tout ce qui est la chimie alimentaire. Ils prennent un virage à nouveau à 180 degrés.
Si et donc c'est pour eux une possibilité de se réinventer.
C'est certain. En plus, que ce soit Bayer ou les autres, ils ont une très bonne personnes. Alors, ils ont une très mauvaise réputation en Europe à cause de Monsanto, mais ils ont une excellente réputation en Asie. Ils sont très connus pour leurs fondations qui agissent en faveur de l'environnement, etc. Ils se sont fait, on peut dire que c'est du greenwashing, mais ils se sont fait une très bonne réputation en Asie. Et là, je suis beaucoup moins inquiète pour cette reconversion et cette fusion Monsanto qui n'a fait jaser qu'en Europe et pas dans le reste du monde.
Spielen jetzt Golf, jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf dem Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf dem Sofa, rauch das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt treu, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus.
Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Giffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block. Tag, kein Tag, aus sag mit zwei Fingern. Kopf und Nacht, Peng, 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 Peng. Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Giffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block. Tag, kein Tag, aus sag mit zwei Fingern. Kopf und Nacht, Peng, 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 Peng.
Jeder glücklich zweiter, keiner mehr Verlierer. Keiner geht mehr klauen, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster. Keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen. Jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin. Keiner will mehr ballern, treffen um zu reden. Keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden. Jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten. Leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne.
Alle am Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Giffen, Saufen, Feiern. So
vous écoutez Kids du rappeur allemand Marteria sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, suite de notre émission consacrée au risque de récession en Allemagne. Nous sommes toujours avec Guillaume Duval et Patricia Comin en duplex de Nice. Alors pour bien comprendre les difficultés que traverse aujourd'hui l'économie allemande, il faut revenir aux origines de son modèle de croissance. Je vous propose d'écouter l'historien Patrick Friedenson.
Il faut remonter pour ça au 19e siècle, tout en se disant que le 19e siècle est proche de nous. L'Allemagne se bâtit une industrie qui est fondée sur la science et la technologie, où son enseignement supérieur, ses universités, ses écoles techniques, ses écoles commerciales font merveille, et sur une ressource qui apparaît de plus en plus, c'est le charbon. Et du charbon, on peut faire de l'énergie, on peut faire de la chimie, et c'est cette application de la science et de la technologie sur le charbon qui va donner les bases de l'Allemagne. Il y a aussi la volonté de créer des normes qui apparaît dans la mécanique, dans la métallurgie, mais qui est appuyée sur de puissantes associations d'ingénieurs. Et il y a aussi des ingénieurs qui essayent de rationaliser le fait de trouver des nouveaux produits, des nouveaux processus. C'est ce qu'on sait autour de Rademacher, ce qu'on appelle la conception réglée.
Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que nous dit ici Patrick Friedenson. On va déplier les éléments l'un après l'autre. Mais d'abord, Patricia Comin, ce qu'on peut dire, c'est qu'au 19e siècle, l'Allemagne pose véritablement les fondements de son système économique.
Oui, alors je souscris tout à fait à l'excellent résumé présenté par l'historien Patrick Friedenson. Simplement, j'aimerais vous poser une question en retour. Bien sûr, l'Allemagne se fonde sur cette puissance qui est gagnée au 19e siècle. Mais pourquoi la France a perdu cette position alors qu'elle était en 1910 le deuxième exportateur mondial?
Alors, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez nous
qu'est-ce
expliquer,
qui s'est passé,
je le
c'est
sens.
La question. Oui, non, parce que mon sujet, ce n'est pas la France. C'est une question que je pose aux auditeurs et que je pose, je vous pose à vous, éventuellement. Par ailleurs, il a souligné un élément très important, c'est la puissance fondée sur le charbon. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le charbon? Le charbon, l'extraction de charbon, se fait sous deux formes. Le lignite, et puis la houille, qui s'appelle Steinkohle en allemand. Alors, le lignite intervient pour à peu près 22% de la production d'électricité brute, c'est-à-dire une électricité primaire qui fabriquée après par les électriciens. On fabrique, évidemment, on revend du charbon aux électriciens qui le fabriquent et qui revendent ensuite aux industriels. Deuxièmement, le deuxième élément, c'est également le charbon, la houille. Et cette houille, cette production de houille qui vaut aussi à peu près pour 21%, et va être supprimée. On sort du charbon. Quand on dit que l'Allemagne, pour des raisons écologiques, sort de la production de charbon, ce charbon très, très polluant, pour des raisons d'émissions de gaz de serre, mais pas uniquement, de pollution multiple, l'Allemagne sort du charbon, mais partiellement seulement. Partiellement, parce que la lignite, enfin les bassins de production de charbon étaient le cœur vraiment de l'Allemagne industrielle et le cœur de la puissance des syndicats.
Et c'est un sujet qu'on va développer très largement, Patricia Comin, dans notre émission jeudi, où on va parler justement de ce pari énergétique de l'Allemagne et des difficultés.
Je dis juste un mot sur ce charbon. Le fait que l'Allemagne ou la production, enfin, l'industrie manufacturière soit encore très dépendante de cette production de charbon, lui coûte très très cher. En Allemagne, les industries manufacturières payent l'électricité, le double de ce que payent les manufacturiers en France. C'est énorme. Mmh. Donc ça ajoute à leur coût. C'est un choc énorme parce qu'ils payent des amendes, des pénalités.
C'est un élément essentiel et parmi.
Et donc ils vont effectivement ils vont se débarrasser de cette production de charbon, mais ils ne vont pas passer directement au renouvelable, qui n'est pas en mesure de prendre le relais immédiatement.
Et là encore, on va développer davantage ce sujet jeudi, Patricia. Comment si vous nous faites toute l'émission maintenant, on va perdre complètement de vue notre sujet du jour, qui est davantage le développement de ce modèle industriel allemand, et notamment le fait que la mise en place de normes, Guillaume Duval, en Allemagne, a été un facteur de croissance important pour les entreprises allemandes, parce que ça a permis une standardisation assez précoce.
Oui, les gens pensent souvent que moins on a de normes, moins on a de règles sociales et environnementales, mieux ça vaut, plus une industrie est compétitive, etc., etc. Si c'était le cas, le Zimbabwe serait un des pays les plus développés au monde, mais l'Allemagne est justement une des preuves que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Qu'en s'imposant des normes plus strictes que les autres, on peut prendre de l'avance sur les autres, notamment parce que ça oblige à être plus innovant et ça permet une meilleure qualité des produits. Mais peut-être en amont des normes, il faut comprendre quelle est la différence essentielle à mes yeux entre l'Allemagne et la France. C'est que, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, la France est un grand pays du libéralisme économique. C'est-à-dire que la Révolution française s'est faite autour d'une idée centrale qui était qu'il fallait abolir les corporations, qu'il fallait qu'il n'y ait plus rien entre l'État et les citoyens, les individus, qu'il n'y ait plus aucune structure en particulier qui organise la production au-delà de chaque entreprise. Donc on est devenu, et les révolutionnaires l'ont fait de manière très conséquente, donc on est devenu un pays très libéral sur ce plan-là.
Alors qu'en Allemagne, les accords de branche sont extrêmement développés.
Oui, mais ce n'est pas seulement important sur le plan social. C'est aussi très important sur le plan technique. On comprend rien à la survie du Mittelstand, enfin au développement du Mittelstand allemand.
Donc cette nébuleuse de PME.
Si on n'a pas en tête justement la persistance des structures corporatives de branche, c'est-à-dire que ces petites entreprises, elles peuvent exister, elles peuvent exporter, elles peuvent innover, elles peuvent avoir de la recherche et développement parce qu'elles s'appuient sur des structures de branche très fortes, y compris dans ces domaines-là. Et notamment dans le domaine de la normalisation, ce qui est ce qui en faisait partie. Mais c'est vrai que ça a une dimension aussi sociale très importante, mais je pense qu'on y reviendra plus tard.
On va en parler maintenant, Patricia Comin, cette question du dialogue social particulièrement développé en Allemagne. On parle souvent du fait que la codétermination, co-gestion est bien plus développée en Allemagne qu'en France, et que ce serait ce modèle de gouvernance de l'entreprise qui donne une plus grande place aux salariés dans les conseils d'administration. Ce serait ce modèle-là qui aurait à la fois une efficacité économique et une vraie efficacité et une vraie justice sociale.
Oui, c'était vrai. C'était vrai. Par ailleurs, une petite remarque, parler de libéralisme économique en France me fait un petit peu tousser. Je parlais plutôt de jacobinisme, ce qui est quand même très différent. Mais c'est vrai que l'Allemagne est différente en termes de structuration de branches. Ceci étant, il faut remarquer que ce système de partenariat social est en baisse, est en chute libre même, puisque à peine 50% des entreprises en Allemagne font partie des conventions collectives. Elles sont sortie du système, si vous voulez. Donc il y a énormément de petites boîtes qui se créent, également dans le domaine de l'industrie manufacturière, mais qui ne sont pas dans le système des conventions collectives.
Et
donc
à quoi est dû ce recul,
qui s'essouffle,
selon vous ?
Parce que on n'était pas capable de suivre. Ça a commencé, si vous voulez, la clause de sortie, ce qu'on appelait la clause de sortie, a commencé à être appliquée dans les ex-pays, enfin lenders de l'Est, puisque les entreprises pouvaient utiliser, recourir à cette clause de sortie parce qu'ils ne pouvaient pas suivre les augmentations salariales. Et puis ces clauses de sortie ont été utilisées à l'Ouest chaque fois qu'une entreprise a considéré qu'elle ne pouvait pas suivre les augmentations salariales. Salaire qui était demandé par la branche. Donc en fait, c'est un système qui est quand même, malheureusement, on peut le dire, on peut le déplorer, mais enfin, bon, disons, en perte sérieuse de vitesse. Oui. Ceci étant, il y a tout de même aujourd'hui un SMIC en Allemagne, depuis 2014 d'ailleurs, qui est supérieur au SMIC français. Il est à 9,35 de l'heure, je crois, net. Donc il est supérieur au SMIC français qui doit être de mémoire, je crois, à 7,93. Donc il y a encore une sorte de filet social qui existe. Ceci étant, vous avez des emplois non qualifiés, les fameux mini-jobs, il y en a 4,6 millions.
Alors justement, je vais faire intervenir Guillaume Duval là-dessus. Des acquis sociaux, nous dit Patricia Comin, mais un dialogue social, lui, qui est de plus en plus en crise.
Oui, enfin, il est en crise, mais enfin, il reste extrêmement puissant. D'une part, l'industrie, enfin, les entreprises qui ne sont pas couvertes sont quand même très majoritairement dans le secteur des services, qui est un vrai souci. Mais le secteur industriel reste, lui, très bien couvert, avec un syndicat qui est en particulier les Gemetal, qui reste extrêmement puissant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, et un patron, enfin, les règles institutionnelles restent en place. C'est-à-dire qu'un patron allemand, il ne peut rien faire de significatif dans son entreprise s'il n'a pas l'accord du comité d'entreprise. C'est pas l'avis, c'est pas l'information, c'est l'accord du comité d'entreprise. Et d'autre part, il y a toujours donc une moitié de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Et c'est évidemment pour ça que l'industrie allemande est aussi beaucoup plus solide que l'industrie française où c'est le féodalisme ou la royauté qui continue à prévaloir. Donc les salariés se sentent beaucoup plus engagés, beaucoup plus écoutés dans leur entreprise, et ils s'engagent eux-mêmes pour cette entreprise, pour la qualité du travail, etc., etc. Donc le souci, c'est que tout ça est favorable, sauf dans un contexte particulier qui est celui des ruptures technologiques. C'est-à-dire que ça fait des paquebots qui sont quand même plus difficiles à faire tourner que l'entreprise française, où il suffit que le PDG se lève le matin en ayant une idée et que le soir, il la fait bouffer à son conseil d'administration qui est tout à fait à sa botte. Donc ça n'existe pas en Allemagne. Ça veut dire que les mutations sont plus longues, plus difficiles. Et c'est vrai que dans le contexte, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie automobile, ça peut être difficile.
Des lourdeurs qui peuvent poser problème. Et alors, il faut aussi évoquer l'impact économique du développement des bas salaires et des emplois à temps partiel, en particulier chez les femmes que vous évoquiez, Patricia Comin. Est-ce que cela, en quelque sorte, tirait les salaires vers le bas ou au moins vers la stagnation ?
Certainement, vous avez, je rappelais tout à l'heure, à peu près 4,6 millions d'emplois qui sont des mini-jobs, des emplois à temps partiel. Mais enfin, il faut pas oublier non plus qu'on a 5 millions d'emplois à temps partiel en France. Alors, ce sont la différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, ces emplois continuent d'être occupés en grande majorité par des femmes, effectivement. Donc, la tentative qui est de faire entrer davantage les femmes sur le marché du travail pour pallier au manque de main-d'œuvre, ça reste difficile. Par contre, il faut souligner aussi que, alors ça, ce sont des emplois très souvent non qualifiés, alors que dans le domaine des emplois qualifiés, vous avez quasiment 800 000 postes non pourvus. C'est considérable, et dans l'industrie de pointe.
Et justement, c'est important cette question des postes non pourvus, parce que quand même, ça pose aussi la question de la formation. On avait beaucoup vanté l'éducation à l'allemande, la place importante accordée à l'alternance. Est-ce que justement, ces formations ne sont pas en crise aujourd'hui avec une grande difficulté de recrutement?
Certainement, mais elles sont en crise non pas du fait des entreprises qui continuent de jouer leur rôle et de prendre leur responsabilité sociale au sérieux, mais du manque de main-d'œuvre, le problème démographique dont vous allez parler, je crois aussi, dans la semaine, est dramatique. Et ce, malgré l'arrivée des 1,5 million de migrants depuis 2015. Et c'est pas eux qui vont occuper immédiatement les postes d'ingénieurs super qualifiés qu'il faut à l'industrie manufacturière allemande. Ils prennent des postes d'ouvriers, on compte environ 7 ans pour former quelqu'un qui arrive comme ça de hors Europe. Il faut qu'il apprenne la langue, il faut qu'il soit formé, et tout ça a un temps. Donc pour l'instant, cette intégration des migrants est quand même spectaculaire, puisque à peu près ou quasiment la moitié des gens arrivés ou des gens en âge de travailler souhaitant travailler ont trouvé un emploi en Allemagne, la moitié de ces migrants.
Et en même temps, la loi sur l'immigration qualifié prend du retard, Patricia Comeau.
Oui, tout à fait. Mais je voulais dire aussi que c'est un coût pour le gouvernement allemand et puis les Länder, les communes, puisque on l'estime à plus, enfin le Bund, la fédération, le gouvernement central allemand a déjà dépensé plus de 95 milliards depuis 2015 pour intégrer les migrants, et que l'intégration aussi coûte aux communes et aux Länder à raison de 30 à 40 milliards par an. Donc les Allemands font l'effort.
Il y a un vrai effort
énorme.
Je voudrais entendre Guillaume Duval sur ce point et sur la question de la formation.
Oui, la question de la formation est une des grosses différences entre la France et l'Allemagne, et ça joue un rôle majeur en termes industriels. Donc le fait que presque la moitié des Allemands passent par la filière de l'apprentissage pour entrer sur le marché du travail, alors que ça reste 10% en France, enfin des niveaux qui n'ont rien à voir, même si ça se développe un peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ça marche en Allemagne, c'est aussi parce que quand on est apprenti, quand on a commencé tout en bas de l'échelle, comme apprenti dans une entreprise industrielle, on peut monter dans la hiérarchie. Hein. C'est-à-dire que pas l'actuel, mais le patron de Daimler, ça doit pas être le précédent non plus, c'est peut-être il y a deux numéros. C'était quelqu'un qui était rentré comme apprenti chez Daimler. Il sortait pas de l'ENA, il sortait pas de la promotion Voltaire. C'est parce que il y a ces possibilités de parcours derrière dans l'entreprise que les jeunes Allemands s'engagent volontiers dans l'apprentissage. Et ça n'existe pas en France.
Vous le disiez au début de cette émission, Guillaume Duval, ce qui manque peut-être à l'Allemagne, c'est une vraie politique industrielle, même s'il y a une ébauche de cette politique qui apparaît aujourd'hui. Je voudrais d'abord qu'on écoute Joachim Lang, il est le représentant du patronat de l'industrie.
Selon nous, le sujet de l'origine de la prospérité de l'Europe est très sous-estimé et nous aimerions accorder une plus grande importance à ce thème. Ensemble, avec nos voisins européens et avec d'autres corporations économiques, nous souhaitons que le thème de la politique industrielle arrive tout en haut, à l'ordre du jour, et que quelqu'un fasse quelque chose pour renforcer la compétitivité de l'Europe. Un deuxième thème, et c'est aussi très important, nous voulons entamer une relation avec les États-Unis et la Chine. Et là encore, c'est un point où nous croyons qu'en tant qu'industrie, nous avons de bons exemples de comment on peut s'en sortir, et nous allons ensemble avec la Commission européenne travailler à de nouvelles règles qui feront en sorte que ce que nous avons réussi en Europe pour nous fonctionne aussi pour ceux qui arrivent.
Et en l'occurrence, en février, Peter Altmaier, donc le ministre de l'économie allemand, a présenté un plan pour une stratégie industrielle nationale à l'horizon 2030. Alors, est-ce que c'est le signe, Patricia Comin, que l'Allemagne est en train de se résoudre à une plus grande intervention de l'État? C'était tout de même une initiative assez inédite.
Pas forcément, parce que, enfin, ça, je ne connais pas tous les détails de ce nouveau projet, mais d'une manière générale, on l'a vu dans les discussions au moment de Lisbonne, l'agenda de Lisbonne, ce que les Allemands et les Français entendent par politique industrielle, ce sont deux choses différentes. Pour les Allemands, ce qui compte, c'est d'avoir un cadre de normes, comme le rappelait Guillaume Duval, ça c'est sûr, mais en même temps, un cadre qui assure une stabilité monétaire, qui assure une inflation contenue, etc.
Le rôle traditionnel dévolu à l'État, effectivement, en Allemagne.
Oui, voilà. Mais par ailleurs, ce qui importe pour les Allemands, c'est une diplomatie commerciale commune. Parce que les Allemands appellent au secours. Ça, c'est très, très étonnant. Ils pensent qu'ils ne vont plus s'en tirer seuls vis-à-vis de la Chine et des US.
Alors, justement, comment est-ce que l'Union européenne...
une diplomatie commerciale commune.
À quoi pourrait ressembler cette diplomatie européenne commune?
Alors, déjà, il y a la question de la protection de la propriété intellectuelle, il y a la question de la protection des investissements sur le territoire européen. Donc là-dessus, il y a déjà des premières mesures qui ont été prises, mais c'est vrai qu'il faut y regarder de beaucoup plus près qu'on y a regardé jusqu'ici, parce qu'on était la zone la plus ouverte au monde, et ça pose quand même des sérieux problèmes. Sérieux problèmes vis-à-vis de la Chine, mais aussi des sérieux problèmes vis-à-vis des États-Unis, comme on le constate avec les GAFA. Mais il faut aussi une véritable politique industrielle au sens de financer de la recherche, financer du développement dans des secteurs particuliers. L'Europe a défait les politiques industrielles nationales, et c'était normal parce que on pouvait pas avoir chacun des politiques industrielles nationales dans notre coin, mais n'a pas construit de politique industrielle européenne.
Mais aujourd'hui, l'Allemagne est beaucoup plus ouverte à cette possibilité-là.
Oui,
il y a un vrai virage.
Oui, il y a une vraie urgence aussi, c'est qu'on a loupé en Europe tous les virages industriels des dernières décennies parce à cause de ça. On a loupé l'internet, on a loupé les portables, on a loupé l'informatique. Depuis 40 ans, on a tout loupé parce qu'on n'a pas de politique industrielle. Si l'internet est devenu américain, c'est pas parce qu'il y a des petits génies sur la côte ouest, c'est parce que l'État américain a dépensé des mille et des cents à partir de la défense dans ce domaine-là.
Et donc la crise que traverse actuellement l'Allemagne aurait peut-être le mérite, Patricia Comin, justement, de permettre à cette politique industrielle européenne que tant de gens appellent de leur vœu d'émerger enfin.
Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution, mais soit. Ce que demandent ou ce que proposent les Allemands, à ma connaissance pour l'instant, c'est de mettre à disposition leurs réseaux commerciaux aux autres pays européens, les réseaux commerciaux établis en Chine, les représentations, par exemple, tout ce qui concerne le suivi des réglementations en Chine, qui est très complexe. Pourquoi vous auriez des bureaux d'avocats allemands qui suivent l'évolution des normes, tandis qu'en face vous avez des bureaux français qui font la même chose et des bureaux italiens. Enfin, donc je pense qu'ils pensent davantage à des mutualisations que à forcément une politique industrie directive. Ceci étant, il y a eu un appel au secours auprès du gouvernement allemand qui, de la part du président du BDI, qui demande
le BDI,
qui appelle à cesser, la fédération patronale allemande de l'industrie allemande. Ils appellent au secours et ils demandent davantage de moyens pour la recherche en IA, en intelligence artificielle. L'Allemagne a mis 3 milliards sur la table alors que les Chinois ont mis 22 milliards. Donc ils se rendent compte qu'ils n'ont plus seuls, ils ne peuvent plus faire les investissements qui seraient nécessaires pour bâtir la technologie.
L'industrie de demain.
L'industrie de demain.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Il nous reste vraiment quelques secondes d'un mot. Qu'est-ce qu'on peut dire, Guillaume Duval, aujourd'hui de la résilience de cette économie allemande?
Bon, comme je l'ai dit, je pense que les problèmes sont structurels, sont très lourds. Mais c'est vrai que depuis 40 ans que je suis un peu ces questions allemandes, il m'est arrivé souvent d'être pessimiste pour l'avenir de l'économie allemande et de les voir rebondir. Donc peut-être que ce sera le cas encore cette fois.
Ce sont les structures industrielles de très petite taille qui sauveront la croissance allemande, Patricia Comin, selon vous?
pour l'instant, on peut dire que, par exemple, 40% des entreprises qui sont en Chine sont des entreprises sont des PME. C'est vrai qu'on peut voir l'avenir de l'Allemagne dans les PME, mais pas uniquement. Il va y avoir un changement structurel spectaculaire. Et je suis d'accord pour dire que les problèmes auxquels doit faire face l'industrie allemande aujourd'hui sont d'ordre, certes conjoncturel, mais structurel aussi.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'Écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le chômage serait-il le grand vainqueur de l'élection présidentielle en Tunisie avec 45% de participation? C'est une vraie désaffection pour ce premier tour. Alors est-ce que le marasme économique est en cause, Xavier?
En tout cas, désaffection nette, oui, par rapport à 2014 et corrélation intéressante. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint 35%, ces jeunes, notablement absents des bureaux de vote hier, alors peut-être est-ce justement ce chômage qui profite à la désaffection politique et qui vient d'éjecter les partis traditionnels au profit de anti-systèmes, eux-mêmes avec un programme économique assez mince. Sinon, je cite, libérer l'économie ou bien lutte contre la pauvreté, priorité absolue. Ça, c'était pour Nabil Karoui, un des deux candidats arrivés en tête. Un des candidats de l'élection, celui d'Enarda, parti islamo-conservateur, proposait de favoriser, lui, l'investissement des jeunes. Mais les constantes qui ont conduit à 2011 demeurent en Tunisie, notamment une dette publique à presque 80% du PIB, une balance commerciale toujours déficitaire, près de 13 milliards de dollars les 8 premiers mois. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche à l'IRD, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek.
Moi, je suis assez pessimiste, en tout cas, quand je vois le fait qu'il y a une qualité de débat parmi les économistes en Tunisie qui, pour certains, prennent vraiment les problèmes à bras-le-corps et dressent des perspectives, font un bon diagnostic de la situation. Et ce qui en sort en termes de débat politique, où on a plutôt des réformettes qui hésitent entre des modèles, mais qui ne prennent jamais en compte le régime de croissance et finalement l'intérêt des élites qui est préservé dans un dispositif, et ce, au détriment de la grande partie de la population. Donc on ne touche pas le cœur, l'essentiel des défis économiques que doit relever la Tunisie pour sortir durablement d'une situation où les jeunes sont exclus du marché du travail, où il n'y a pas de prime à la qualification, où les modes d'insertion de la Tunisie dans l'économie mondiale restent fondés sur une spécialisation à bas coût et à mauvaise qualité. Donc c'est tout ça qu'il faudrait remettre à plat, mais ça suppose une redistribution du pouvoir et des richesses de l'élite qui finalement tient toujours le pays.
Et le principal bailleur de la Tunisie, le FMI, s'inquiétait également pour la fin de cette année.
Oui, le FMI qui a prêté 2,4 milliards d'euros à la Tunisie et qui révisait ses perspectives de croissance en juillet à, je cite, 2% tout au plus, déçu du bilan manufacturier. Quant à réformer le système, comme le disait Jean-Yves Moisseron, eh bien 70 économistes tunisiens indépendants s'étaient mobilisés fin août pendant la campagne en publiant un livre bleu. Ils préconisaient trois mesures principales, stabilisation économique, relance par les investissements et des politiques sectorielles.
On passe aux brèves. Grève historique aux États-Unis chez General Motors.
Et oui, 46 000 employés de chez General Motors sont appelés à débrayer dans 3 heures maintenant, à midi heure américaine, pour cette première grève la plus massive depuis 2007. Alors ce mouvement lancé par le puissant syndicat United Auto Workers vise à appuyer la renégociation d'une convention collective de 2015. Les syndicats demandent des salaires et des droits à la santé supplémentaires. General Motors dit avoir présenté ce qu'il appelle une offre solide, à voir qui cédera, puisque vendredi, le syndicat avait conclu des accords avec Chrysler et Ford, mais le groupe GM doit économiser cette année plus $1 milliard.
Toujours aux États-Unis, suite de la crise judiciaire des opioïdes, Purdue Pharma, un des plus puissants industriels, rend les armes.
Et oui, le fabricant de l'analgésique OxyContin vient d'annoncer sa mise en faillite et le retrait de ses propriétaires, la famille Sackler. C'est le résultat d'un accord entre un des principaux fabricants d'opioïdes visé par plus de 2000 plaintes et 24 États américains pour éviter un procès, justement. Purdue Pharma donc disparaît. $10 milliards devraient être dégagés, dont une partie réinjectée au profit d'une nouvelle entité qui distribuera à moindre coût des traitements contre les opiacés. Ainsi, comme Johnson & Johnson, Purdue était accusé d'avoir favorisé des prescriptions de ces antidouleurs, contribué à 47 000 décès. Johnson & Johnson s'en était tiré avec une amende. Fin de partie pour Purdue Pharma, à voir la suite chez les concurrents.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
On se quitte avec Serratone's Lie to My Face. Merci beaucoup Guillaume Duval et Patricia Commin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Nice qui ont assuré ce duplex. Demain, on se demandera si l'Allemagne est prête à remettre en cause le dogme de l'orthodoxie budgétaire pour relancer la croissance. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.